France Culture. Sans oser le demander. Ouais. J'aurais dû me la savoir.
Ça nous arrive à tous. On croit savoir une chose, on s'en vante, on crâne, et puis non, on se trompe. Et quelqu'un est évidemment là pour nous le rappeler. Il en est ainsi du rap belge. On se vante d'écouter Damso, Hamza ou Shai. On se vante de dire qu'il s'agit du meilleur rap français. Et puis non, boum, ils sont belges. D'ailleurs, ne sont-ils pas devenus les meilleurs du rap francophone ?
J'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol, c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Hey, ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros Nesby, je suis immunisé. Mon cerber, cinéro, némésisé. Je balance ma piste sur les Champs-Elysées. Trop défoncé, je sais plus ce que je disais. Je vais dans le nid que ta mère à la pute. Faut que ton 2000 salaire brut. Je suis dans le texte d'Amso, Dempse. Sabre laser, Skywalker, Luke. Je la prends le bras, elle crie par la fenêtre. Lubrifiant pépère, senteur musc. Ils montent des sauts dans la haine, je médite. À l'hosto, je vais me faire sucer par Gwen Meredith. Je joue contre Bilbao, je peux faire que la diff. Le rap prend ses KO en un seul fils. V, Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un play. Douce doux, Gordon V. Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un play. Douce doux, Gordon V. Je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Je crois ni en l'amour ni en vita. Je creuse l'écart comme les quiz de Nikita. Si t'aimes pas, c'est que je rappe ce que tu ne vis pas. Après coup de feu, prière, il récita. Trop balèze, donc le négro palpita. Les émirats n'ont que faire ta visa. Tout comme le rap n'a que faire de mon Elisa. Je connais qu'un seul king, c'est Martin Luther. Enfonce pas tranquille, coup de feu, je n'ai plus peur. Je partirai jamais comme la tâche de Jean-Louis Crashman dans les 12 coups de 12 heures. Baroudeur vie, oui, je suis un voyou. Je suis un grisoli, tu n'es que balou. Tu bouffes chez Esprit, je bouffe chez Mère Malou. Déflingué comme un fit, débrouiller les garous. V, Bruxelles, Bruxelles, V. Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours, je roule un play. Douce doux, Gordon V. Bruxelles, Bruxelles, V.
Bonjour Mehdi Mehzi.
Bonjour.
Vous êtes responsable rap chez Apple Music France, animateur des émissions Le Code et Le Code Review. Vous êtes l'auteur de Rap Français, une exploration en 100 albums parus aux éditions Le Mot et Le Reste. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler de rap français, mais de rap belge. Est-ce que ça a un sens déjà de parler de rap belge ?
Oui, je crois. En tout cas, je pense qu'il y a déjà une erreur dans mon livre, parce que j'aurais dû l'appeler rap francophone.
Parce qu'il y a des albums belges, c'est ça, de rappeurs belges.
Ouais, et surtout, absolument. Et surtout, je pense que j'ai sorti aussi ce livre-là en 2015, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Avant finalement l'explosion de ce qu'on appelle le rap belge, et qui a complètement aujourd'hui redéfini, le terme rap français, il est devenu un petit peu obsolète aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de rappeurs qui évoluent dans ce paysage-là et qui viennent finalement de Belgique ou de Suisse, mais énormément de Belgique. Donc oui, je pense qu'on peut parler de rap belge, non pas qu'il y ait forcément une scène belge dans le sens où il n'y a pas un son belge, tout le monde ne fait pas la même musique, mais par contre aujourd'hui, il y a de plus en plus de rappeurs qui viennent de Bruxelles, de Charleroi, comme Jean-Jas, de Liège, et qui constitue finalement une force très importante dans le paysage rap francophone. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, historiquement, il y a eu deux villes importantes dans le rap français à l'époque, c'est Paris et Marseille. Aujourd'hui, Bruxelles, c'est clairement la troisième ville la plus importante en termes de fournisseurs de talents dans le rap francophone.
On vient d'écouter Damso, Bruxelles Vie, donc un des grands rappeurs belges. C'est vrai que quand on écoute ce son qui est sorti en 2016, on ne se dit pas « Ah bah oui, c'est un rappeur belge ». Au contraire, en fait, souvent d'ailleurs, on fait l'erreur. On va se dire, c'est exactement ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire en gros, on va se vanter. Ouais. « J'adore Damso ». T'as écouté le dernier Hamza et en fait, il est super ce dernier album. Ouais. Vraiment, le rap français, c'est le meilleur. Pas du tout, ils sont belges.
Moi, je me suis surpris ces dernières années. La plupart des rappeurs que j'ai écoutés en boucle, ils sont belges en fait. Il y en a, je pense, sur les 5-10 rappeurs francophones que j'ai plus écoutés depuis 2015, il y en a peut-être 5-6 qui sont belges au final. Donc oui, ils ont vraiment amené quelque chose. Et puis, je crois qu'aussi, on se posait beaucoup la question au début peut-être de l'appartenance, l'origine des rappeurs. Aujourd'hui, en fait, ils ont complètement intégré le paysage. C'est-à-dire que aujourd'hui, un rappeur qui est belge, c'est plus du tout un obstacle pour le public. Mmh. Avant, ça l'était. Ça qui est terrible, c'est que pendant longtemps, on ne sait même pas que c'était on ne calculait pas les rappeurs qui venaient de Belgique. Il y en avait, avant Damso, etc. Mais jamais il n'avait ne serait-ce qu'approché un début de notoriété dans l'Hexagone, en fait. Donc il y avait vraiment le public qui était finalement assez chauvin, pas très ouvert à ce qui venait de d'autres frontières. Aujourd'hui, ça a complètement explosé, ça.
Mais c'était du chauvinisme ou juste aussi des a priori à l'égard de la Belgique aussi?
Je pense des a priori.
Parce qu'on adore le rap américain.
Je pense que c'est clairement lié aussi à l'histoire entre la France et la Belgique. Enfin, on adorait ces horribles blagues sur les Belges. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça et que du coup, il y avait un problème de prise au sérieux, en réalité, des rappeurs belges. Alors que vraiment, j'insiste, il y a eu de très très bons groupes belges. Starflame est vraiment un groupe très important finalement dans l'histoire du rap français.
C'est qui Starflame?
C'est un groupe finalement. Alors moi j'aime bien parler de Balogi par exemple, parce que Balogi c'était un des membres de Starflame qui a fait une superbe carrière après en solo, qui a sorti un album qui s'appelle Hotel Impala, qui est un album extraordinaire. Mais c'était un groupe vraiment important du rap des années 90, début 2000. Pour moi, on peut les mettre à côté, de groupes comme les Sages-Poètes de la Rue, comme la Clica. Ils étaient dans cet univers-là. Et d'ailleurs, il y a eu des collaborations entre eux et certains des rappeurs français de l'époque. Mais une réalité, c'est qu'ils n'ont jamais, à l'époque aussi, je pense qu'il y avait peut-être moins de place médiatique pour ces rappeurs-là en France. C'est-à-dire que il y avait moins de médias.
A priori, moins de place.
Plus d'a priori, moins de place, moins de médias rap, contrairement aujourd'hui où les médias rap prolifère. Et puis voilà, c'était et puis il y a une réalité, c'est que le pays, la Belgique étant un plus petit pays que le nôtre, en tout cas souvent ces rappeurs-là ne pouvaient pas se suffire à la Belgique s'ils voulaient en tout cas en vivre, s'ils voulaient vraiment percer. Le passage en France est obligatoire. Damso l'a souvent dit en interview, c'est-à-dire que il fallait passer par la France pour espérer avoir une carrière, et malheureusement cette génération-là n'y est pas arrivée, à part une exception qui est finalement peut-être le premier tube de l'histoire du rap français, on disait à l'époque, mais francophone, finalement, c'est Benny B, puisque fin des années 80, début 90, on a le « Mais vous êtes fou », en fait, c'est un rappeur belge, mais c'est une exception, en fait. Ça aurait pu être le début de quelque chose, mais finalement, ça a été une exception.
Mais on va écouter Benny B, pas tout de suite, dans quelques instants, Mehdi, mais juste un mot quand même sur Damso et sur cette année, notamment 2016, parce que c'est pas par hasard que vous nous avez conseillé ce titre de Damso, donc c'est Bruxelles Vie, déjà, ça parle de Bruxelles, donc ça, au moins, les choses sont claires, mais c'est surtout cette date de 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016?
2016, en fait, c'est le début d'une forme de nouvel âge d'or pour le rap francophone, mais beaucoup pour le rap belge. En fait, avant ça, déjà, il faut... début d'année 2010, il y a une nouvelle génération de rappeurs, etc. Mais le rap est dans une position...
Donc là, on parle du rap français?
Français, exactement, absolument. Francophone, mais on disait français, en tout cas, à l'époque. On n'était pas encore éveillé à ce sujet-là. Mais le rap, à ce moment-là, il est dans une situation qui est assez compliquée commercialement. C'est-à-dire que, hormis quelques groupes de rap, la Section d'Assaut, Booba, on vend plus beaucoup de CD à ce moment-là. Et donc, il y a un problème de renouvellement économique, quelque part, pour le rap français. En tout cas, les gens continuent à en écouter, mais n'en consomment plus de la même manière. En tout cas, commercialement, on ne vont plus acheter des CD comme avant.
C'était quelque chose. Ça, c'est l'effondrement un petit peu aussi du mode CD. Absolument. Et le début des plateformes de streaming.
Et bien, justement, les plateformes de streaming, à partir de quand est-ce que les chiffres en streaming sont comptabilisés dans les chiffres de vente? C'est en 2016. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui va être très important. C'est que ces écoutes qui étaient finalement presque illégal avant, deviennent comptabilisés, et pour le rap, ça va presque surpondérer le rap dans les chiffres au final. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et ça coïncide avec le moment où on a toute une nouvelle génération de rappeurs qui arrivent, et il s'avère que beaucoup d'entre eux sont belges. Donc il y a, on a dit Damso, Hamza, Caballero et Jean Jass, Shai, etc. Et je pense que Damso, c'est important parce que je le disais avant sur l'obligation quelque part de passer par la France. Damso, il a était jusqu'à être signé par le rappeur numéro 1 du pays, donc Booba, sur 9-2-I. Et donc, fin 2015, il est invité sur Nero Nemesis, qui est un album de Booba qui a cartonné, sur le morceau
Pinocchio,
absolument. Il fait un couplet d'ailleurs qui fera un peu polémique. Et ça, c'est un peu la rampe de lancement parfaite. C'est-à-dire qu'en réalité, Damso, à ce moment-là, il est inconnu du grand public rap. Et moi, je me souviens que fin 2015, je fais un petit peu des sondages dans une émission sur qui sera la prochaine révélation. Et en commentaire, j'ai énormément de gens qui me parlent de Damso. Parce qu'à ce moment-là, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est vraiment très important, l'aval de Booba est déterminant. On est vraiment à une époque où Booba, quand il partage Gradure sur Facebook, ça change sa vie à Gradure. Et donc Booba, qui partage un rappeur inconnu, belge, qui en plus, lui, il s'avère qu'il vient et qu'il fait un couplet dont tout le monde se souvient, c'est qui ce gars-là en fait. Et donc c'est un peu cette remblancement parfaite. Et en plus ce gars-là, il arrive, il dit Bruxelles vie, ce qui est très très étrange, c'est-à-dire que de mettre en avant une ville qui n'est pas Paris ou Marseille dans le rap francophone, à ce moment-là ça n'existe pas vraiment. C'est un peu comme dans les années 90 quand les sages poètes de la rue parlent de Boulogne, tout le monde leur dit mais vous allez quand même pas représenter Boulogne quoi, une ville de bourgeois. Et les mecs mettent Boulogne sur la carte du rap et depuis c'est devenu normal, jusqu'à Booba évidemment, 9 de I. Mais c'est exactement ce que le travail que fait Damso à ce moment-là, que feront aussi d'ailleurs Caballero et Romeo Elvis sur Bruxelles arrive la même année, hein, avec un morceau qui deviendra un hymne, mais c'est qu'ils mettent Bruxelles sur la carte du rap. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, en tout cas qui n'avait pas été entendu par les auditeurs de la même manière. Et donc Bruxelles devient une ville chaude dans le rap, et Damso devient la nouvelle sensation du rap francophone. On le verra en 2016 avec Batterie Faible, bien sûr, et encore plus en 2017.
Donc c'est son album, hein, Batterie Faible.
Son premier album, qui avait été pensé comme une mixtape, hein, d'ailleurs, et c'est Booba et le label qui lui a dit « Mais ça, c'est pas une mixtape, ça, c'est ton premier album. » Et après, il y aura Ipséité l'année d'après, qui là sera vraiment un énorme carton porté par Macarena. Et là, Damso devient presque le plus gros rappeur du moment, quoi.
Alors on va écouter maintenant Benny B, parce que effectivement le rap belge ça date pas quand même que de 2016.
Ça va pas prendre le dire.
Voilà, ça date de la fin des années 80 et notamment avec ce titre Vous êtes fou.
Qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté. Où la PJ est passé trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette villa. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous.
Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui errent, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces personnes ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon nous rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort.
Mais vous êtes fous.
Oh oui.
Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous.
Donc 1990, Benny B, vous êtes fou. Est-ce que c'est du rap ça, Mehdi Mehzi?
C'est complètement du rap, c'est vraiment... ça ressemble sincère. Alors, il y a effectivement quelque chose d'électronique aussi. Hein. Mais comme
il y a la dance un peu des années 90.
Des années 80 aussi. Finalement, c'est intéressant de voir que ces deux genres-là musicaux, quand même, qui sont très très proches, hein, le rap et la musique électronique au sens large, ils sont souvent regardés en chien de faïence, mais ils ont commencé ensemble. Il y a, voilà, enfin... Afrika Bambaataa, etc. Il y avait déjà des choses très électroniques. Donc quand Benny B fait ça, il est complètement dans l'air du temps. Ça sonne daté aujourd'hui parce qu'on ne rappe plus comme ça, on ne pose plus sur ce genre de prod. Mais c'est complètement du rap. Et c'est vraiment, je pense que c'est même pas complètement du rap. C'est même, pour beaucoup de gens, la première fenêtre vers le rap. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que beaucoup de gens découvrent le rap. Déjà, le grand public...
Se dit que c'est du rap
et parce que c'est présenté comme ça. Moi, je me souviens de Benny B. Enfin, je me souviens, je l'ai vu après, mais Benny B qui va jouer chez Jacques Martin. Comment s'appelait son émission le dimanche?
Dimanche Martin,
je crois. Voilà, c'est ça, c'est Dimanche Martin, exactement. Et qui va jouer. Et c'était le rappeur Benny B. Et beaucoup de rappeurs aussi m'ont dit, Youssoufa me disait par exemple qu'en interview, il a découvert le premier rappeur qu'il a écouté, c'est Benny B. Donc, pour les gens, le rap, c'était ça. C'était qu'un mec qui venait, qui rappait vite, etc. Donc oui, c'est complètement du rap. Ça n'a pas forcément été pris au sérieux, par contre, par le public rap.
Parce que c'est un énorme succès commercial, voilà, donc vous l'avez dit, hein, Mehdi, certains rentrent dans le rap grâce à Benny B, mais effectivement, dès qu'il y a un succès, il y a aussi voilà, suspicion de corruption.
Oui, et puis en plus, nous quand même, dans le rap, en tout cas, au début, ça a un peu changé, en France, on avait quand même beaucoup le côté « le rap doit être engagé ». J'exagère, puisqu'en fait, à IAM, il y a toujours eu des morceaux marrants, pareil pour NTM, mais c'était quand même des groupes qui d'abord étaient... qui portait un propos. Là, ce morceau-là de Benny B, il porte pas vraiment de propos, ni politique, ni il est pas contestataire. Et donc, c'était un peu le cas de tous les groupes qui étaient sur ce registre-là, comme Alliance Ethnique, par exemple, aussi, des années après, qui ont été critiqués, ou MC Solar, qui étaient vus comme du rap à l'eau, quoi. Alors qu'Alliance Ethnique, par exemple, c'était un groupe super hip-hop, vraiment. Pareil pour Benny B, ce sont des gens qui viennent profondément de cette culture-là, et qui ont pris du rap américain, le côté fun, quoi. Mm. Et pas forcément le côté politisé, plutôt le côté voilà, bismarckique public ennemi, pour résumer un petit peu. Alors que le rap français, en tout cas, qui était demandé par le public, c'était NTM, IAM, c'était Public Ennemi, c'était Rakim, c'est des choses plus sérieuses. Et nous, le rap, il devait être sérieux, en fait.
Mais ça, c'est marrant, c'est souvent quand même un cliché qui pèse, ouais, sur le rap. Absolument. En gros, la manière de sauver le rap, c'est qu'il soit conscient.
Absolument.
Le rap conscientisé, il n'y a rien de... Voilà, c'est presque insupportable d'entendre ça. C'est ce qu'on a reproché aux Belges, finalement.
Absolument, exactement. Et c'est ce qu'on reproche à tous les rappeurs qui, finalement, sont... ce qu'on a reproché à D6 pendant longtemps, quand D6 a percé avec Je pète les plombs, qui était un storytelling un peu rigolo, mais qui n'était pas... on pouvait pas résumer D6 à ça, mais beaucoup de gens l'ont fait. Ils ont dit, mais t'es qu'un rappeur rigolo. Alors que, finalement, ce que fait D6, c'était proche de ce que faisaient des mecs comme Redman à l'époque. Enfin, c'est une tradition du rap depuis le début. Le rap a toujours été aussi... Enfin, le premier tube de rap, c'est quoi? C'est Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. C'est un morceau qui est extrêmement léger. C'est 79, et on est vraiment sur du rap qu'on qualifierait de léger, qui raconte... Mais en France, nous, pendant longtemps, on a appris, et même y compris, je pense, les médias généralistes, dès qu'un rappeur était pas trop sérieux, on le prenait un peu à la rigolade. Alors que non, le rap et le côté fun, ça a toujours été une composante du rap. Peace, Unity and Having Fun. Il y avait un morceau de NTM, je crois que c'est sur Paris sous les bombes, qui s'appelait Juste pour le fun, un morceau que j'adore d'ailleurs. Mais c'est ça aussi le rap, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont complètement décomplexés, qu'on accepte enfin le rap dans toutes ses composantes, et c'est pour ça que maintenant il n'est pas belge, mais des mecs comme Jul ou un mec comme Hamza à Bruxelles, qui pour le coup ne porte pas de propos contestataires, absolument pas, mais qui est complètement accepté aujourd'hui. On a fait du chemin depuis Benny B.
Mais il y a une manière aussi de décrédibiliser. Finalement, ce qui est arrivé au rap belge, c'est la question, c'est l'histoire du rap en tant que tel. C'est-à-dire, comment le rap peut-il devenir légitime ou a-t-il été décrédibilisé? Donc, soit parce qu'il était trop drôle, soit pas assez engagé. C'est ce qu'on entend finalement là avec Benny B.
Absolument, complètement. Et finalement, c'est un peu triste aussi de se dire que finalement, pour que le rap belge soit réellement accepté, en tout cas, qu'il intègre réellement, qui touche les oreilles de tous les auditeurs, il a dû être validé, c'est le cas de le dire avec Booba, par le rap français, en fait. C'est quand même un peu ça qui est un peu triste, c'est que finalement, malgré... Parce que franchement, des activistes dans le rap belge, il y en a eu énormément.
Mais on ne les écoutait pas.
Alors c'est un peu dur parce que des gens les écoutaient quand même, mais en tout cas, le grand public rap ne les écoutait pas. C'est une réalité, n'y prêtait pas attention, malheureusement. Et ça, c'est quand même un peu triste, c'est qu'il a quand même fallu passer par la France, par les médias français aussi, pour que eux puissent vraiment même devenir des rappeurs à succès aussi là-bas, aussi chez eux.
On a parlé de la décrédibilisation, mais en fait, ce qu'on entend aussi avec Benny B, et c'est une manière de délégitimer le rap, et donc aussi le rap français qui cristallise ça, c'est aussi quand même la commercialisation. C'est-à-dire que dès qu'il y a un titre qui s'écoute beaucoup, c'est ce que j'ai dit, en fait, on suspecte le fait qu'il soit corrompu. Et c'est vrai que là, quand même, Benny B a quand même pâti du fait d'avoir été complètement marketé, absolument, d'avoir été associé à des boys bands. Quand on écoutait le son, moi je vous ai dit, ça me fait penser à un remix des Visiteurs, un peu
des inconnus
rap tout. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui a décrédibilisé en fait ce genre de rap.
Complètement, et je pense que c'est le drame globalement des rappeurs qui ont eu beaucoup de succès dans le début des années 90, à un moment où justement le rap était une culture extrêmement underground. Pour le coup, c'est-à-dire que Benny B, il arrive aussi à un moment où aujourd'hui, on a 20 albums de rap francophone qui sortent tous les vendredis. Avant, on avait 20 par an. Et encore, 20 par an, 90.
Vraiment 20
non,
tous les vendredis, là?
J'exagère, mais franchement...
Il y en a beaucoup.
Mais il y en a 20, en fait. Bien sûr que si on prend tous les rappeurs underground qui sortent des projets, plus les 2-3 grosses sorties en major, je pense qu'il y en a plus que 20. Franchement, moi, avec tout ce que je reçois en DM Instagram, plus les sorties que tout le monde connaît, mais il y en a peut-être 30 en réalité. Donc avant, il y en avait peut-être 10 par an en 90. Donc on a un moment où c'est extrêmement underground. Benny B, il devient, malgré lui, une figure extrêmement exposée du rap. Et donc oui, effectivement, il y a beaucoup de jalousie aussi à ce moment-là. Pourquoi lui et pas nous? Parce qu'il y a Benny B, mais il y a plein de rappeurs à ce moment-là qui commencent à faire leurs armes, qu'on entend chez Radio Nova, etc. en France, qui eux n'ont pas eu ce succès-là, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait le morceau pour que ça marche. Donc ça aussi, ça génère beaucoup de frustration, beaucoup de conflits, et donc beaucoup de critiques. Donc oui, absolument, à l'époque, et on l'a vu avec MC Solar, on l'a vu aussi même des années après, en 96, avec Doc Gynéco, avoir un succès massif n'est jamais très bien vu.
Mais c'est encore le cas, non?
Ça a changé. La preuve, Jul. Aujourd'hui, il y a quand même... on est dans un milieu quand même, le rap, où on respecte les chiffres. Donc c'est la fameuse phrase que Jay-Z avait dite une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas les chiffres. Donc on a pris ça au pied de la lettre. Donc Jules était très très critiqué au début, y compris par des rappeurs qui maintenant collaborent avec lui, parce qu'en fait il s'est imposé par la force de ses chiffres, par la force de son succès. Donc aujourd'hui, le succès, le terme dans le rap à l'époque, le mot commercial, c'était une insulte, quoi. Commercial, il faut pas être, ce qui veut rien dire, mais bon, bref, c'était pas bien. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Au contraire, je pense même que beaucoup de rappeurs aujourd'hui, ils se mettent même dans le rap pour que ça marche. Et moins par passion.
Oui, mais le sens de l'histoire, je pense. Les chiffres ne signifient pas non plus reconnaissance. Or là, c'est exactement le cas de Benny B. C'est-à-dire que ça vend, ça ouvre au rap, mais c'est décrédibilisé et c'est pas reconnu. Et Benny B, après, en fait, ne perdure pas comme un rappeur, mais plutôt comme le chanteur à un tube, en fait.
Ouais, c'est vrai, il photographie d'une époque. Mais aujourd'hui, alors ça équivaut peut-être pas à reconnaissance, mais en tout cas, ça impose une forme de respect, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on respecte le succès. Même on le cherche. Donc aujourd'hui, vous n'entendrez personne dans la pensée dire du mal de Jules. En tout cas, pas publiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est typiquement... Ça aurait pu être Benny B, hein, des années avant. Mais il arrivait avec un son, d'ailleurs un peu électronique, etc., qu'on a critiqué, qu'on a même parfois tourné en ridicule, mais qui s'est imposé, qui est devenu une tendance dans le rap francophone. Et aujourd'hui, c'est presque... c'est une école, c'est un genre musical à part entière, du coup, quasiment. Donc, aujourd'hui, on est... Enfin, le rap a changé, et c'est ça qui est dur pour des pionniers, et Benny B est un pionnier, qu'on le veuille ou non, parce qu'il arrive à un moment où l'industrie rap n'existe pas. Elle n'existe pas.
Donc, on peut dire que le mouvement hip-hop s'est d'abord enraciné à Bruxelles, avec quelqu'un comme Benny B, mais on pourrait aussi citer en fait d'autres noms.
Bien sûr.
Que moi, par exemple, j'ai noté que la première mixtape, elle paraît en fait à Bruxelles en 1990, Bruxelles Rap Convention Volume 1, Stop the Violence, par exemple.
Il y a cette mixtape-là qui sort en même temps que Rap Attitude, justement, aussi chez nous en France, mais absolument. C'est-à-dire que
c'est un centre majeur.
Absolument, exactement. Sauf qu'on l'a reconnu que 25 ans plus tard, quoi.
Yeah. BMW a tout pété, je fais des showcases tout par un. Tout se passe comme prévu direct dans le piano.
Et Bruxelles, c'est ma ville, moi je la représente, je suis une vraie bruxelloise, pure produit d'ici. Je la défends parce que je trouve qu'on apporte une vraie proposition. Faut savoir que nous ici à Bruxelles, on a une scène depuis très longtemps. On a nos rappeurs qu'on écoute, mais ils n'étaient pas connus en France. D'ailleurs, je suis le premier rappeur à avoir dépassé les frontières.
Tu sais, moi je suis d'une époque. Quand on allait à Paris, on nous disait de pas dire qu'on était belge. On disait, ouais, mais pas sans valeur que t'es de Bruxelles et tout. Tu vois, il y a 15 ans, c'était réellement ça. Donc, le fait qu'on puisse revendiquer notre identité belge sans complexe, d'être sur le même pied d'égalité que Paris et Marseille, c'est une grande victoire pour nous.
L'argent, le respect et le pouvoir. Mon refrain, le ciel, c'est la limite. La réincarnation de Biggie. Je peux poser sur toutes sortes de rythmiques. Au micro, je peux régler des litiges. La réincarnation de Biggie. Quand on arrive, ils parlent plus trop. Rien qui nous guette comme des marsupiaux. On se dirige vers la table du fond. Yeah. Le game tout plein de rappeurs qui s'auto-sus. Hein. La réincarnation de Notorious. Le voyage disparaît en un éclair. Transpire beaucoup quand je suis devant les projecteurs. Docteur, je donne des cours aux professeurs. On donne tout sauf si tu fais trop d'erreurs. Équipe qui attaque, équipe capable. La réincarnation de Big Papa. Il pige pas pourquoi je kiffe ma life. On est très rarement dans la cistana. La mentalité du bloc. On n'est jamais à court de stock. Y'a un petit qui a fait un t-shirt. Et il m'appelle pour que je le porte. Il me dit putain Inch'Allah j'ai fort kiffé. Je t'écoute le matin et quand je suis ordinaire. Vérité ce que tu fais c'est extraordinaire. Encore kiffé, je me sens fortifié. L'argent, le respect et le pouvoir. Mon refrain, le ciel c'est la limite. La réincarnation de Biggie. Je peux poser sur toutes sortes de rythmiques. Au micro, je peux régler des litiges. La réincarnation de Biggie. Quand on arrive, ils parlent plus trop. Rien qui nous guette comme des marsupiaux. On se dirige vers la table du fond. Yeah. Le game tout plein de rappeurs qui s'auto-sus. Hein. La réincarnation. l'incarnation de Notorious. J'emmène à la raison et j'apporte la folie. J'observe les murs du quartier, je vois plein de symboles maçonniques. Beurre de karité, j'passe plus crème. Nique le monde, je veux pas la place du chef. Elle fait des squats, elle dit qu'elle veut que ça soit plus ferme. Ma chérie, je te le dis, t'es bonne, quoi que tu fasses et quoi que tu mettes. Des fois, je suis mal entouré, entouré de plein de gens douteux. C'est sûr qu'ils vont béton, incessamment sous peu.
Que sommes-nous en train d'écouter, Mehdi Mehdi?
Ben, un des plus grands rappeurs francophones déjà de notre époque, déjà il faut le dire, Isha. Moi, ça a été une claque monumentale quand j'ai découvert Isha, mais que je ne connaissais pas Pacemaker. Parce qu'en fait, Isha, c'est intéressant, c'est qu'il a commencé dans les années 2000 en tant que Pacemaker. Tout le monde à Bruxelles le connaissait, pour le coup. Mais sa musique ne marchait pas plus que ça, n'avait pas encore moins franchi les frontières, très clairement. Et puis, s'est renommé en Isha vers 2014-2015. Au moment où le rap belge connaît finalement un âge d'or, en tout cas une seconde vie quelque part, et du coup il a bénéficié, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui était là avant, qui a mon âge, hein, donc qui va autour de 35-36 ans, mais qui bénéficie quelque part de cette nouvelle génération là qui prend le pouvoir à Bruxelles, et il va complètement s'y associer, et il y a plein de gens qui savent pas, ou qui ne savait pas en tout cas à l'époque, qu'Isha était déjà là depuis 10 ans en fait. Donc il a une sorte de nouvelle jeunesse à ce moment-là, lui, et c'est assez, une renaissance artistique, et il sort du coup des projets, une trilogie qui s'appelle La Vie Augmente, qui est phénoménale. Pour le coup, vraiment, c'est absolument immanquable si on veut s'intéresser en tout cas au rap belge de ces dernières années. Et voilà, donc c'est intéressant parce que lui, pour le coup, effectivement, comme on le disait en antenne, fait le pont entre la génération un peu maudite du rap belge des années 2000 et la génération dorée aujourd'hui,
les années 2020.
Exactement.
On vient d'entendre son titre La Réincarnation de Biggie, c'est sur son album Labrador Bleu, donc qui est sorti en avril 2022. Comment se distingue l'ancienne école de la nouvelle école belge, Mehdi Mehdi?
Ben, je pense que elle se distingue surtout parce qu'elle est elle est peut-être encore plus décomplexée que la précédente. C'est-à-dire que la précédente, il y avait de très bons rappeurs. On peut parler de Pacemaker, on peut parler de Gandhi, un rappeur exceptionnel, etc. Mais on a le sentiment que parfois, certains d'entre eux voulaient trop peut-être coller au code du rap français. Peut-être être quelque part un peu, enfin je veux pas parler à leur place, mais un peu le complexe d'infériorité du voisin qui a moins de succès, qui est un peu plus petit malheureusement. Et donc, peut-être qu'ils les regardaient parfois un peu trop avec, voilà, c'est le rap français, on doit passer par eux pour que ça marche. Aujourd'hui, les rappeurs belges, et dès le début, cette génération-là, elle ne s'est pas posée ces questions-là. Elle est arrivée beaucoup plus décomplexée. Et parfois, même le sentiment qu'ils regardaient beaucoup plus les États-Unis que la France. Hamza est le meilleur exemple de ça. C'est-à-dire que Hamza, je pense qu'il a écouté Booba et La Fouine en rap français, c'est tout. Mmh. Mais globalement, ce n'est pas du tout un enfant du rap français. C'est beaucoup plus un enfant de 50 Cent et de Young Thug que d'Akhenaton. Enfin, Akhenaton, c'est un peu trop ancien pour lui, malheureusement. Mais en tout cas, que de Rof et Lino. Voilà, donc je pense que c'est une génération aujourd'hui qui est... C'est souvent ce qu'on a dit, la première question c'était est-ce qu'il y a une scène belge? Je ne sais pas s'il y a un son belge.
Voilà, est-ce que c'est pas forcément reconnaissable comme non. Ça? Bon, ça parle quand même de Bruxelles.
Oui, ça forcément, même les histoires ne sont pas
celles que nous entendons. Une forme de territorialité quand même.
Voilà, exactement. Même les histoires d'immigration externe ne sont pas celles que nous on connaît en France. Donc les parcours de vie sont différents, évidemment. Mais en termes de son, il n'y a pas vraiment de particularité. Enfin, il y en a plusieurs en tout cas qui sont propres à chaque artiste. Mais moi, ce qui nous a marqué en tout cas quand on les a vus, c'est ce côté... une forme d'insolence un peu belge, le côté décomplexé. On fait ce qu'on veut, on ramène parfois du franglais dans nos textes, on ramène... Voilà, Hamza était très très choquant à ce niveau-là, Caballero aussi était choquant. Mmh. C'est une autre manière de rimer parfois chez certains, où on a l'impression qu'ils se posaient un peu moins de questions et qu'ils ont dynamité quelques codes, même si... Voilà, certains ont grandi avec le rap français. Damso, on en parlait, c'est aussi un enfant de ce rap-là. Je pense qu'il a écouté Booba, Dizzy's. Mais je pense que c'est surtout dans le côté... il était beaucoup plus décomplexé.
Et alors donc, il n'y a pas de caractéristiques. Par exemple, quand on vous parlait de l'ancienne école et de la nouvelle école, il n'y a pas eu, avec ce tournant en fait, qui est dû plus à des modes de diffusion qu'à des bouleversements esthétiques.
Non, absolument. Il n'y a pas eu de bouleversement esthétique et je pense même qu'il ne faut pas faire l'erreur de regrouper tout le rap belge. Une erreur que nous, on a faite à l'époque, en 2015.
Et de dire, par exemple, il y a le rap français, il y a le rap belge, et le essentialisé.
Voilà, exactement. Et nous, on était les premiers à le faire parce qu'on était tellement choqués de voir tous ces rappeurs belges talentueux qu'on se forçait à leur trouver des points communs. Alors que le point commun, c'était leur unité. En revanche, ça, c'est vrai, qui a toujours été revendiqué. C'est-à-dire qu'ils se connaissent tous.
Parce que c'est une petite scène?
C'est une petite scène, une petite ville aussi, Bruxelles. On a joué Bruxelles-Vie. Si on regarde le clip de Bruxelles-Vie, on voit Damso avec Caballero et Crisy. Donc, des esthétiques de rap, justement, qui sont différentes. Donc, on ne peut pas les regrouper sous une forme, unique forme esthétique. Je pense que c'est le rap belge actuel. Il subit toutes les mutations du rap global. C'est-à-dire que nous, le rap francophone, c'est toujours été un rap qui a été majoritairement influencé par le rap américain. Aujourd'hui, encore, mais aussi par le rap anglais, par le rap mondial globalement, par le rap nigérian. On écoute l'album d'Amza, il y a un morceau Kokoro qui est vraiment un morceau de musique nigériane. Mais comme un rappeur français pourrait l'être. Donc je pense que ils sont à l'heure, mais il n'y a pas vraiment d'esthétique belge. Et je pense même qu'ils ne revendiquent pas ça. Je pense qu'ils revendiquent surtout une forme d'unité, le fait de tous se connaître. Si vous allez à Bruxelles et que vous allez en studio voir Caballero, vous allez sûrement voir Isha pas loin. Ça, c'est une réalité pour le coup. Ce qu'on n'a pas chez nous, où les équipes de rappeurs ne sont pas tout le temps ensemble comme chez eux.
Mais elles sont même en clash en France. C'est-à-dire qu'il y a des vrais affrontements. Absolument. Il y a une vraie culture du rap à Marseille qui est différente de celle Paris, et alors en plus, quand je dis Paris, il faudrait aussi parler par territoire très distinct. Pourquoi en Belgique, c'est si unique ça, en dehors du territoire qui est plus petit? Est-ce que c'est dû justement à des modes de production, à des subventions politiques qui empêchaient ça, qui faisaient qu'on devait en fait être unis pour survivre?
Je pense que si, finalement, même la nouvelle génération, je dis des générations dorées, même elle a connu finalement la galère du rap belge quelque part, puisque quand ils ont commencé, le rap belge n'était pas à la mode. Donc, ils ont aussi, je pense qu'il y a ce sentiment-là un petit peu de les underdogs, quoi. Ceux qui n'étaient pas censés y arriver, qui finalement y arrivent ensemble au même moment. Donc, je pense qu'il y a un sentiment commun, quand même, de se dire on a galéré ensemble, on doit réussir ensemble. Il y a aussi une réalité, pardon, c'est que beaucoup de ces rappeurs-là ont commencé ensemble, traînés dans les mêmes studios, parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens qu'à Paris. À Paris, il y a des studios à chaque coin de rue. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à Bruxelles, mais en tout cas, à l'époque, c'était plus compliqué. Même de trouver des producteurs, des beatmakers. Il y a une particularité, et ça, c'est intéressant d'en parler. Beaucoup des rappeurs belges dont on parle aujourd'hui sont rappeur et beatmaker. C'est le cas d'Amza, de Damso, de Jean Jass.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que beatmaker?
C'est faire des instrumentales. C'est produire, composer, globalement. Donc,
ceux, en fait, qui sont devenus rappeurs ont écrit.
Beaucoup.
Savent faire de la musique.
Absolument.
En fait, ils font tout de A à Z.
Beaucoup d'entre eux, parce qu'il n'y avait pas, déjà, il n'y avait pas 10 000 studios et il n'y avait pas 10 000 producteurs. En France, c'est beaucoup plus simple depuis longtemps de trouver des producteurs et qui travaillaient. Là-bas, il y avait un côté aussi débrouille. On doit le faire. Hamza disait qu'il a commencé comme ça parce qu'il savait pas qui appeler pour faire des prods. Donc, il produisait quasiment tous ses premiers projets. Il avait un groupe à l'époque et c'est lui qui faisait les productions. Pareil pour Damso. Donc, ces rappeurs-là viennent de cette urgence-là, quelque part, ce manque de moyens. Je pense que c'est ça aussi qui les rapproche et ils ont commencé ensemble. Donc, aujourd'hui, ça marche pour eux. Il n'y a pas de clash parce qu'ils sont pas... Je crois qu'il n'y a pas le même historique aussi. Nous, le rap français, on a toujours eu des clashs en France. On a toujours eu depuis...
Comment vous expliquez ça, justement, que, voilà, même sans essentialiser, comment ça se fait, en fait, et en dehors d'une simple question de taille de territoire, qui est, certaines productions, certaines cultures, productions culturelles, qui soient fondées sur du clash, c'est-à-dire sur de l'affrontement, et que, paradoxalement, c'est ça qui fasse grossir le truc, monter le truc, et de l'autre côté, c'est l'entraide qui va justement fonctionner, parce que tout le monde va collaborer et va produire un son diversifié.
Je pense aussi qu'il y a une question d'époque. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, globalement, une fois Ninho m'avait dit il n'y a plus de clash dans le rap français. Et en réalité...
Donc Ninho, juste pour dire, c'est un rappeur français qui est un des plus streamés en France, un des plus écoutés français, avec Jules et Orelsan.
Et exactement. Et finalement, il n'y a plus vraiment de clash dans le rap français. Si on parle français, justement, il y a une personne dans le rap français qui cristallise la plupart des clashs actuels, mais qui vient d'une autre époque, c'est Booba, parce que finalement, je pense que Booba, c'est aussi quelqu'un qui se construit dans l'adversité. Je pense qu'il a besoin de ça, je pense qu'il aime ça, qu'il est plutôt bon là-dedans, il faut le reconnaître. Mais la nouvelle génération n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde collabore avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'adore, mais cette unité-là, finalement, elle est assez, on la retrouve dans l'intégralité du rap francophone quelque part. Vous prenez un album, vous vous retrouvez 8-9 rappeurs. Dire qu'il y a quand même une forme de les embrouilles, c'est un peu derrière nous. Donc la Belgique aussi, je pense, se retrouve là-dedans et n'a pas de volonté de rentrer en clash. Je pense qu'il y a aussi le rap qui a changé et qui est beaucoup plus quelque part comment dire, presque cynique parfois qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que ce n'est pas leur intérêt. Donc pourquoi se clasher quand on peut faire de l'argent ensemble? Il y a beaucoup plus ça maintenant, qui est un peu une mentalité américaine quelque part. C'est-à-dire les Américains, qui ont beau ne se détester, ils vont pouvoir faire des morceaux ensemble, faire même des albums en commun parfois. Je pense que nous, dans la francophonie, on arrive un peu plus à ça aujourd'hui.
Pétasse, la vie qu'on mène, un putain de phénomène. Baby, viens, je t'emmène. Je respire tout ce pollen. Je croyais qu'on se ressemblait. Je pense qu'un nid qui démerde. J'allume ce jeune peuple sur le corner. J'insiste pour qu'ils comprennent. Je dépense cette monnaie en négro, la vie qu'on mène. Putain de phénomène, fumé nocif dans le Porsche Cayenne. Plein temps, ok, 100 millions, je vais jamais rentrer. Ok, yeah, pétasse veut de la cocaïne. Je laisse les tasses à la traîne, yeah. Je niquais bitch et sale crème, yeah. Je lui demande plus quand est-ce qu'on ken. J'ai pas choisi laquelle, yeah. Heureux quand j'ai ce bif, j'dois fuck cette vie. Plus rien qui me blesse, non, non. Couille dans le Calvin, yeah. Grinzer, VVS, baby, yeah. Négro, j'suis plein de principes. Pourtant je déçois NMR, personne qui comprend. NMR, ne fais pas un move qui sonne comme si tu vas switch de camp. NMR, bitch, Grinzer, 9D, ils savent bien qui j'suis, ouais, dans tout le pays. Du coup ils ont vide, le coffre est plein. Dans le circuit, course le mine. J'peux pas dormir sur ce qui, sans expression dans la Lamborghini. J'rigole parce que ces tasses sont finies. Maintenant fermez vos touches. Grinzer est venu détruire pour le pack Grinzer. Tu mérites pas ce que j'apporte. NMR, ancré sous la peau. Ça se voit quand j't'aime pas trop. Pétasse, la vie qu'on mène. Un putain de phénomène. Baby, viens, je t'emmène. J'respire tout ce pollen. J'croyais qu'on se ressemblait. J'pense qu'un nid qui démerde. J'allume ce joint de peuf sur le corner. J'insiste pour qu'ils comprennent. J'dépense cette monnaie en négro, la vie qu'on mène. Putain de phénomène. Fumé nocif dans le Porsche Cayenne. Plein temps, ok. 100 millions, j'vais jamais rentrer. Ok. Pétasse veut de la cocaïne.
Green Montana, qui a été signé par Booba. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mehdi Mezi. Booba, à un moment donné, qui a quand même signé Damso, qui a signé aussi Green Montana. C'est intéressant parce que ça veut dire que à partir des années, milieu des années 2010, les frontières sont véritablement tombées. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'une véritable émergence d'un rap francophone?
Complètement.
Et qui rivalise même avec le rap américain, pour le coup.
Complètement, oui. Enfin, moi, je vais même aller plus loin. Je pense qu'il y a même, c'est pas le sujet du jour, donc on fera peut-être une autre émission un jour, mais il y a même un rap européen, je pense, qui est en train de, si on parle de rivaliser avec le rap américain, je pense que là, il y a quelque chose d'assez historique et de nouveau dans notre histoire de rap, c'est qu'il y a un son européen. Si vous prenez un rappeur comme Morad, qui est espagnol, il fait la même musique que Jul, et il est fan de Jul. Donc c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, il y a des ponts qui sont en train de se faire, effectivement, entre des pays différents, et même parfois des pays qui ne parlent plus, qui ne parlent pas la même langue.
Par exemple, il y a le rap suisse aussi.
Alors, effectivement, je pense que si on parle de francophonie pour le coup, et de gens proches, oui, la France, la Belgique et la Suisse, c'est en train d'exploser, en tout cas, aujourd'hui, déjà, le public ne se pose plus la question. C'est-à-dire que là, il y a Makala qui va faire l'Olympia. Les gens ne se disent pas, je vais voir un rappeur suisse, en fait. C'est pas la question. Alors que, il y a 15 ans, les gens se seraient dit, mais il y a un rappeur suisse qui fait l'Olympia. C'est bizarre, non? Aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet. Varnish Lapiscine, qui est un producteur génial, qui lui aussi vient de Genève. Voilà, là, on voit que Pharrell était là pendant la Fashion Week. Il était là avec un vinyle de Varnish Lapiscine sous le bras. Et on l'a vu en studio avec Varnish, etc. Donc aujourd'hui, tout ça n'a plus vraiment de sens, ces frontières-là qui avant étaient vraiment des barrières, quoi. Des barrières psychologiques, je pense, pour les gens, de se dire je vais écouter un rappeur suisse.
Ou un rappeur belge, c'est ce qu'on disait, on rigole un peu, quoi.
Exactement. Aujourd'hui, ben non, à partir du moment où Damso l'a fait et qu'il s'est imposé comme un des rappeurs les plus crédible, même, j'ai envie de dire, même de l'histoire du rap francophone. Du coup, une fois que lui l'a fait, quelque part, ben, c'est plus simple aussi pour les autres derrière, et ça crée un précédent. Donc oui, il y a vraiment maintenant, et c'est intéressant, parce que je pense que maintenant, moi, par exemple, je m'efforce, en tout cas, de ne plus dire rap français. je dis rap francophone. Et ça, c'est à cause des Belges, hein, ou grâce plutôt aux Belges. Mm. C'est grâce à eux que maintenant on fait cet effort-là, parce que rap français, c'est une erreur. Et c'est de la même manière que, à mon avis, dire chanson française, c'est une erreur aussi, parce qu'à l'heure où on a Stromae et Angèle, qui donnent, enfin, qui sont presque les plus grandes pop stars de chez nous, mais qui ne sont pas de chez
d'Europe,
nous finalement.
Oui.
Bah voilà, donc c'est, on devrait parler de francophonie à chaque fois, puisque c'est la réalité aujourd'hui, et la Belgique. Et on est extrêmement responsable.
Mais c'est intéressant cette idée de rap européen qui rivaliserait avec le rap américain. Ça veut dire que aussi on a une restructuration à travers le rap, presque pas seulement des frontières, mais presque aussi des hiérarchies symboliques, oui, qu'on avait entre des pays,
absolument,
des sortes de blocages, de distinctions, de ce qui est valable qu'on puisse écouter ou pas, ce qu'on a
bien
honte
sûr
d'écouter aussi.
Et complètement, complètement. Et ça, je pense que c'est encore une fois, ben, c'est toujours les jeunes, hein, qui changent et qui font la loi. Et je pense que nous, la nouvelle génération qui arrive, elle est beaucoup plus curieuse à ce sujet-là que la nôtre, en tout cas, puisqu'elle se pose beaucoup moins de questions, elle a beaucoup moins d'a priori. Elle écoute du rap italien. Moi, jamais j'allais écouter du rap italien. J'y avais pas accès. C'est aussi une réalité, c'est
oui,
que je n'y avais pas accès. Mais si j'y avais eu accès, est-ce que je l'aurais écouté? Je sais pas, puisque moi, pour moi, le rap, c'était la France et clairement les États-Unis. Et même dans les États-Unis, c'était New York et Los Angeles, mmh, et un peu Atlanta. Maintenant, je veux dire, parfois les gamins, j'allais dire, parce que je suis vieux, ils écoutent des mecs qui viennent de villes complètement paumées des États-Unis. Ils ne se posent pas la question. Ce qui compte, c'est le son. Ce qui compte, c'est que ce soit bien, en fait. Le succès de Central Cee, bon, il vient d'Angleterre, hein, il vient pas de très loin, mais je veux dire, aujourd'hui, Central Cee, c'est un des rappeurs mondial, en tout cas un des rappeurs anglo-saxons qui a le plus de résonance. Il vient pas de New York ou de Los Angeles. C'est la réalité, mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus global, même qui dépasse le rap, quand on voit l'importance du reggaeton ou de Rosalía, on en parlait en antenne. Mm. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup moins la question. Il s'agit pas uniquement de rapper, de chanter en français ou en anglais. Les gens sont beaucoup plus ouverts, à mon avis, à tout ça. Et effectivement, ça rééquilibre beaucoup de choses.
Mais on a aussi beaucoup associé tout à l'heure le rap à des territoires,
oui,
des guerres de territoires,
ouais,
ou alors revendiquer, célébrer un territoire. Bruxelles, ouais, voilà, une sorte d'éloge de Bruxelles. Le fait de se désancrer comme ça des territoires, est-ce que ça fait perdre quelque chose au rap? C'est-à-dire que avant, on parlait beaucoup aussi des conditions de vie liées à un certain,
ouais,
lieu. Toute cette dimension-là qu'on a forcé un peu du côté engagement conscientisé du rap, est-ce qu'on est en train de le perdre pour quelque chose de beaucoup plus global, lié aux réseaux sociaux, à la massification du rap, à l'absence justement de jugement sur différents pays?
Je sais pas, puisqu'en même temps, j'ai l'impression que le rap marseillais n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, par exemple. Il y a un son marseillais. Le C'est Marseille bébé des CH sur bande organisée qui est chanté.
Ça, pour le coup, on reconnaît direct aussi.
Exactement.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression que non, que il y a encore la place pour des particularités, il y a encore de la place pour des sons qui ne ressemblent pas aux autres. Et puis surtout, le rap ne perdra jamais cette volonté de crier sa ville d'origine ou son département. Je pense que ça, c'est ancré dans le rap.
Et pourquoi d'ailleurs? Enfin, c'est vraiment une bonne question. Pourquoi plutôt que dans d'autres styles
musicaux? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Des guerres entre quartiers, qui est le plus stylé, qui est le mieux habillé, qui sort avec la plus belle fille, qui a le meilleur flow. C'est nous parce qu'on vient d'ici, parce qu'on a été élevé comme ça.
Mais ça, c'est une question de comparaison, de performance,
ouais, et
de compétition.
Exactement, de compétition. Et le rap vient de ça. Et donc, nous, on vient d'ici, donc on est meilleur.
Il y a un truc d'équipe, comme les équipes de foot.
Absolument, c'est l'essence même du rap. Et ça, je pense que ça ne changera pas, puisque c'est dans la grammaire du rap, en fait. Même les générations qui n'ont pas grandi avec IAM ou NTM, elles sont influencées par ça. Parce qu'il y a quand même un langage dans le rap. Parfois, on dit, oui, mais aujourd'hui, le rap, ça ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Oui, et tant mieux, je pense, puisque sinon, ça voudrait dire que le rap s'arrêterait d'évoluer. Donc, c'est quand même la grande force de cette musique-là, c'est qu'elle est en constante mutation. Mais par contre, il y a encore des codes dans la manière dont les rappeurs écrivent, les rappeurs et les rappeuses, ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils mettent en avant. Et leur origine reste importante. Par contre, ce qui est vrai, c'est que parfois, on a des gens qui viennent de certaines villes et qui ne font pas du son qui va être historiquement associé à leur ville. Le meilleur exemple de ça, c'était A$AP Rocky à New York, qui faisait un son influencé parfois par le rap de Houston, ce qui était très choquant à l'époque. Comment un New-Yorkais peut faire du... Mais finalement, c'est aussi emblématique de la génération actuelle qui a accès à toute la musique du monde sur son téléphone et qui, du coup, s'inspire de choses qui, parfois, sont très, très éloignées d'elle.
Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre, bon, ça fait un petit peu conservatrice,
ouais,
de dire ça, mais une sorte de dilution du style. Par exemple, quand on parle du son de Houston ou du son de New York, du
oui,
son de Bruxelles, du son de Paris, du son de Marseille, est-ce que finalement, il ne va pas y avoir une sorte sorte de dilution parce que avec la francophonie, en fait, ça va être une puissance en tant que telle, ou alors peut-être qu'il va avoir une caractéristique du rap francophone en tant que tel, c'est-à-dire qu'il va se distinguer par certains sons, certains textes, certains rapports au territoire.
Moi, je pense qu'il y aura toujours. Je pense que la dilution. À partir du moment où un genre devient extrêmement populaire, comme c'est le cas du rap, elle est un peu inévitable. Donc ça, mal, on peut le regretter. Par contre, il y aura toujours des contre-pouvoirs. Et en fait, il y en a. C'est-à-dire que, oui, si on écoute un album de Maes, donc gros rappeur français aussi qui sort bientôt, de Ninho ou de Gradure, ça, et pourtant des gens qui viennent de villes différentes, ça va sûrement se ressembler à peu près dans les choix, etc. Par contre, en dessous de ces gens-là, entre guillemets, il y aura toujours des gens qui vont proposer autre chose. Et le rap, finalement, c'est la question de la dilution, elle s'est déjà posée dans les années 2000, quand le rap commençait à être très populaire en France. Et on a eu l'émergence de ce qu'on a appelé, alors, pardon pour le terme, mais c'est ce qu'on disait à l'époque, le rap alternatif, avec des groupes qui ont ramené autre chose. En France, comme aux États-Unis d'ailleurs, hein, donc MF Doom, Paix à son âme aux États-Unis, des gens comme ça, ou en France, TTC, Grunge.
Donc qui ramenaient un petit peu, donc d'autres influences, donc
exactement.
De la techno, de la dance, du reggaeton.
Tout à fait. Des choses qui d'ailleurs au début sont underground et qui au bout d'un moment sont récupérées par des gens plus connus, entre guillemets. C'est la carrière de Drake est formée là-dessus, hein, sur de la récupération de choses, et qui du coup deviennent très influents quelque part. Aujourd'hui, on a par exemple la two-step, qui est un genre anglais, devient de plus en plus populaire dans le rap français, de plus en plus ramené. Au début, ça a été ramené par des gens underground du rap français, comme Grems par exemple, ou comme Kekra aussi à notre niveau. Et donc voilà, et maintenant ça rentre un petit peu dans la nouvelle esthétique du rap francophone. Donc je crois que oui, le rap, à partir du moment où quelque chose devient très populaire, ça se dilue forcément, mais il y a toujours des gens qui seront là pour dynamiter tout ça. C'est pareil dans le cinéma actuel, enfin, je pense que c'est inévitable malheureusement.
Je crame un gramme aussi vite que je cramerais un pédéraste. J'écoute ta shit, on dirait qu'un bébé rap. Non, je n'aime pas vos rimes. J'écris avec du pavot, ton rappeur favori appelle les favos. C'est ma life qui est une odyssée, fuck Ulysse. Fessé avec main de maçon sur vos culisses. Je devrais consulter un oculiste parce que tu dis que t'es partout, mais je vois ton son sur aucune liste. Je veux ma pyramide au bord du Nil, crasse les cloportes opportunistes. C'est nos potes que les porcs punissent. Toujours les mêmes comme notre fuite avec Chris. Ici, je croise les tricks, flingue comme t'aimes Chris. Ici, ton sang embellit l'épée. Tout le PIM, mon style de PIMP frappe. De Los Angeles, je suis aux anges. Encore plus que quand je suis dans son truc en forme de losange. Vous me croisez en studio, vous remplissez vos langes. Tous frères et sœurs, mettez ma version cheap comme Solange. J'envoie mes textes depuis le Valhalla. Reste couché, fais le beau, ferme ta gueule, va là-bas. Voyage astral, je vois tout en fractal. DMT, psilocybine, fox, sirocybine. Conseillé par mes ancêtres, je reviens pour tout flinguer. Dans aucune réalité, vous vainquez. J'affronte la concurrence, j'ai l'impression que je bouffe un cake. Tu me veux en concert, Rolex, Daytona ou vainqué. Shoot un fake, que je redonne le sourire au gang.
Et puisqu'on a parlé de Caballero et Jean Jass, on vient d'entendre Caballero, eh bien on va écouter Jean Jass.
Juste pour moi, bien trop fine. L'amour, y'a trop d'inconvénients. J'écris ce refrain juste pour toi. Dans ta zone, j'te veux pour moi solo. Yeah. J'veux que tu sois mienne, au-dessus de la moyenne. Elle me sort de la poitrine comme un allié. Viens là que je te graille. No woman, no cry. Que la zone, ni Dubaï, ni Miami. J'partage pas ma bouffe comme Joe et Tribbiani. Désolé, pas moyen de joindre le plug. J'espère qu'il a pas de tesso. Pas grave, y'en a des autres. Continuez à vous empoisonner avec vos drogues légales. Mon esprit et mon corps ont subi trop de dégâts. J'aimerais dire aux petits qu'il n'y a pas d'avenir dans la vente. Le destin t'attaque les durs, les deux pieds en avant. C'est pour le six, de couiller jusqu'à Ghostly. Arrache ta gueule de Ryan Gosling. En tout sauf pour écrire des textes et faire des prods. Si je meurs d'un cancer comme Pierre des proches, commentaire auprès de mes proches. Je suis un salaud, je te veux juste pour moi. Bien trop fine. L'amour, y'a trop d'inconvénients. J'écris ce refrain juste pour toi. Dans ta zone, je te veux pour moi solo.
Donc Caballero et Jean Jass, deux titres différents, mais ça c'est très représentatif du rap belge, pardon, en fait je parle de rap belge alors qu'en fait je devrais parler de rap francophone, mais c'est vrai que c'est deux rappeurs incontournables de cette scène-là. On a beaucoup parlé de Hamza, de Damso. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier en fait? Pourquoi ils marchent comme ça?
Eux, c'est intéressant parce que donc on les a découverts vraiment 2010, 2011, 2012, quand il y a une sorte de renouveau du rap boom bap. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend là, puisque donc ça, c'est deux extraits de leurs albums qui sont sortis l'année dernière. Hein. Ils ont sorti chacun un projet solo. Doudou en était pour notamment pour Jean Jass, qui est un super album. Et donc ils arrivent dans ce renouveau-là. Donc c'est l'époque 1995, l'entourage, donc l'arrivée de Nekfeu, d'Alpha One, et eux sont proches de L'Homme Pâle également, qui à l'époque L'Homme Pâle est vraiment dans cette esthétique de rap là. Et eux, ils sont avec eux. Il y a des freestyles à l'époque de 2011-2012, on les voit tous ensemble, et c'est déjà d'un très 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 bon niveau. Et puis chacun fait sa carrière, et c'est intéressant puisque quand un Nekfeu est devenu une superstar en 2015, et avec des clips surproduits, etc., quand L'Homme Pâle est devenu une superstar avec Flip, eux sont restés fidèles à cette esthétique là. Et on l'entend vraiment sur ces morceaux-là qui sont sortis en 2022, à faire du boom bap, à faire ce que Akhenaton aurait qualifié à l'époque de rap orthodoxe, c'est-à-dire un rap fidèle, on va dire, aux principes new-yorkais, quoi. Et eux bénéficient en plus d'un moment où aujourd'hui ce rap-là est de nouveau à la mode. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était un peu désuet, le rap de kicker, comme on dit, les rappeurs techniques. Mmh. Les rappeurs techniques n'étaient plus trop à la mode. Et puis depuis 2020, c'est de nouveau à la mode avec des Alpha One, etc. Et donc eux bénéficient, eux ils n'ont jamais bougé de cette ligne-là. Ils ont toujours eu un peu la même de conduite, fait un peu la même musique. Et aujourd'hui, comme cette musique-là, ben elle est à nouveau appréciée par le grand public rap francophone, et ben du coup eux se remettent à faire des chiffres. Là, ils font un Zénith le 20 avril qui est sold out. Enfin, c'est ça se repasse à nouveau très très bien pour eux. Et puis c'est aussi des gens qui sont très très forts avec leur communauté, puisqu'ils ont une émission qui s'appelle Aïe et Fines Herbes, qui parle de plusieurs choses, de rap mais pas que, qui cartonne sur YouTube. Mais donc voilà, donc c'est aussi, ils ont ce côté entertainer aussi, enfin vraiment c'est aussi, quand je pensais au rap décomplexé, je pense aussi beaucoup à eux. Je pense que il y a plein
qui
de
se mettaient pas la pression. Exactement. Pour essayer de faire un rap qui serait plus
là où en France on le faisait beaucoup à
plus
l'époque.
Hostile, ouais, ou je sais pas comment le définir, ouais, d'ailleurs si, moins hostile, scolaire ou moins gentil,
ça colle pas à l'image du rappeur, ouais, que le rappeur doit avoir. Ben eux, ils sont pas là dedans, quoi. Donc voilà, et ils le font très bien.
Donc vous avez parlé du rap technique, c'était quoi le rap à un moment donné différent qui a émergé et justement qui était qui osait autre chose et que Caballero et Jean Jass n'incarnaient pas à un moment donné?
Ben c'est finalement l'explosion entre guillemets, alors ça c'est de ce qu'on pourrait appeler le rap mélodieux mais qui s'est exprimé sous différentes formes, mais à partir de 2016, 2017, 2018, il y a eu quelque chose qui a explosé, c'est les rappeurs-chanteurs, quelque part. Damso, c'est un très bon exemple de ça. Là, on écoutait Bruce et Lévy, il rappe, pas de problème, mais il y a des morceaux où la frontière est beaucoup plus fine. Hamza, c'est autant un rappeur qu'un chanteur de R&B. Et c'est le cas pour PNL, ils sont pas belges, mais c'est complètement ça. Je pense que on fait écouter PNL, un auditeur de rap qui n'écoute plus de rap depuis 99, on lui met ça, il dit mais qu'est-ce que
y a du chant.
C'est pas du rap, ça, en fait. C'est des mecs qui chantent. Donc, ça, c'était quelque chose de très, très nouveau. Alors, ce sont pas les premiers rappeurs qui ont commencé à chanter. L'autotune était arrivé avant, mais à ce moment-là, ça s'est un peu industrialisé. Et c'est devenu automatique. Et tous les tubes de rap ont commencé à être comme ça. Donc, ça a été quelque chose, je pense, une époque un peu plus difficile à manœuvrer pour certains rappeurs qui ne savaient pas le faire, qui n'avaient pas envie de le faire. Mais par contre, c'est une époque qui a été dorée. Puisqu'en plus ça coïncidait avec le streaming, etc. C'est aussi une époque où les gens avaient de plus en plus envie d'écouter du rap un peu plus dansant, un peu plus festif, et donc des gens qui savent le faire, comme Hamza par exemple, parce qu'on en parlait, comme Damso, bah ça a été le moment où eux justement ont pu aussi montrer qu'ils n'étaient pas que des très bons rappeurs, mais qu'ils savaient faire autre chose. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est l'explosion du rap mélodieux. Alors il y a eu des gens comme la Section d'Assaut, comme La Fouine avant, mais c'est des exceptions. Là, c'est quelque chose qui s'est vraiment
presque. Donc il y a ceux qui rappent et qui chantent.
Absolument.
On va écouter, puisque vous en avez parlé plusieurs fois, Mehdi Mehdi, Hamza.
Je suis venu pour ça.
Pour Hamza. et on n'en parle qu'à 15h52. Et bien là, en fait, il est avec Prince Lee.
Ouais. Ring ring, moi négro tu sais où ça. Tu pars en plus comme hier avec un globe sur la globe. Tellement de liquide, on me demande d'où vient la flotte. Tous ces pensées sombres, amigo qui nous trottent.
Je recompte juste pour la sécu. On se fait pas confiance, pas de faux cul. J'aurais dû les brûler avec du recul. On peut toujours régler ça avant que je circule. Mes gars tournent comme des hélices. Elle ramène tous les gars chez elle comme Kélis. Fais pas de bruit quand y'a la police. On peut se faire péter comme des novices.
Rêve, meurt, rêve. Transport, loose day. Bleu me connaît tous, ouais. Tous chalice, tous paix. J'ai un petit fait pour le wari. Le wari, le wari. La coca de Cali, la lambo, la rare. Et le compte à Silvio Berlusconi. Pour le compte à Cali Jenner. Cali Jenner, Cali Jenner. Vie de l'os à que l'on mène. Putain de vie de l'os à que l'on mène. La pute à la vallée, puis elle vient te noir. Tu dis de la merde et puis on vient te gras. Gras, tu dis de la merde et puis on vient te gras.
La vie de ma mère veut les mêler. La vie de la vie de ma mère veut les mêler. La vie de ma mère veut les mêler. La vie de la vie de ma mère veut les mêler. 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 La vie de la vie de ma mère veut les mêler.
La vie de ma mère, je vais les mêler. La vie de ma mère, je vais les mêler.
Prinsley et Hamza Zoom, c'est vous, Mehdi Mezi, qui nous avez indiqué ce titre. Alors, Hamza, c'est un peu votre chouchou. Et Prinsley, il est intéressant aussi.
Oui, oui, Prinsley, c'est très intéressant parce que on a beaucoup parlé du fait que les rappeurs belges avaient eu un peu de mal à percer, en tout cas dans les années 2000. C'était pas le cas des producteurs belges, et notamment d'un collectif qui s'appelle Street Fabolos, qui est créé par Oz et Amir, qui sont des beatmakers hein, à l'époque, on en parlait tout à l'heure, qui aujourd'hui d'ailleurs sont les managers et producteurs d'Hamza. Et en fait, Prinsley a commencé en tant que producteur. Donc au sein de Street Fabolos, pardon. Donc là, il sort son premier album en tant qu'artiste-interprète. Donc ça, c'est tout nouveau pour lui. Mais sinon, c'est un producteur et un producteur très talentueux d'ailleurs qui a réalisé l'album Calf et Calf Infinity de Damso. Donc voilà, c'est son dernier fait d'armes qu'a produit aussi, qu'a coproduit Rencontre de DC's et Damso, donc un des gros morceaux de l'année dernière. Donc c'est un producteur extrêmement reconnu. Mais c'est intéressant de noter que Street Fabolos, vraiment, donc quand le rap belge pour le coup avait du mal à s'exporter, eux produisaient, on produit 09 pour Booba, on produit pour Lafouine, on produit pour Niro, enfin, on produit pour énormément de gros rappeurs français. Donc, les Belges avaient peut-être un temps d'avance sur la partie production à ce moment-là. Et sûrement même, puisque je parlais un peu du côté décomplexé et le fait qu'ils regardaient sûrement un peu plus vers les Américains. Ils ont produit pour Booba et Lafouine, énormément pour eux, à un moment où justement ces rappeurs-là étaient tournés vers l'Amérique et faisaient du rap en français, plus que du rap français quelque part. Et donc, je pense qu'il y avait ce côté-là chez les Belges et que ça aussi était une influence pour la génération d'après, puisque le principal exemple de réussite belge, c'était pas des rappeurs, mais c'était des producteurs, avec Street Fabolos, qui, si vous êtes dans leur studio un jour à Bruxelles, vous voyez, c'est rempli de certifications de tout le rap français de l'époque. Ils ont vraiment, pour Diams, enfin, ils ont vraiment produit pour tout le monde à l'époque.
Est-ce que maintenant, on peut dire, Mehdi Mezi, ce sera ma dernière question, que le rap mondial est tourné, en fait, vers l'Europe, en particulier grâce aussi aux Belges, avec toutes ces qualifications dont vous avez parlé, c'est-à-dire la production, le fait de pouvoir produire des sons, le fait de pouvoir les écrire.
Je pense que, en tout cas, alors, est-ce qu'il est tourné vers l'Europe? Je pense qu'en tout cas, le rap mondial, en tout cas, l'épicentre du rap mondial, effectivement, c'est plus les États-Unis. Mais je pense que c'est aussi le Nigeria, c'est aussi l'Amérique latine, c'est aussi, voilà, je pense que c'est tout ça. Et du coup,
mais le rap américain ne domine plus le monde.
Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est, ben voilà, prenez les top streaming de chaque pays européen, il n'y a pas de rappeurs américains, en fait. Il n'y a que des rappeurs locaux. Et parfois, des rappeurs français qui cartonnent en Allemagne, MHD à l'époque, etc., ou même encore. Enfin, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, oui, quand Drake sort un album, il se passe quelque chose parce que c'est Drake, mais globalement, et encore, franchement, les tops de tous les pays européens sont dominés par les rappeurs locaux. Et ça, c'est une vraie nouveauté, je dirais, qui a été amenée aussi par le streaming.
Merci beaucoup, Mehdi Mezi, de nous avoir parlé du rap belge, mais du rap, en fait, européen. On pourrait dire maintenant francophone européen. Ouais. De vous, on peut lire rap français, donc rap francophone, ouais. On va le rappeler, on va le renommer.
Ouais, c'est ça.
Une exploration en 100 albums aux éditions Le Mot et le Reste. Et puis, je signale quand même donc le troisième album d'Hamza, sincèrement, qui est sorti le 17 février sous le label Just Woke Up. Et on se quitte avec Kobo, dont on n'a pas parlé. Une très belle chanson que vous nous avez recommandée. Merci encore, Mehdi Mezi.
Avec grand plaisir, merci.
Bloqué entre mes raisons et mes torts. Quoi qu'il arrive, je me donne au maximum. Pourrais pas me contenter du minimum. Je cherche les pesos comme un Baltimore. Bloqué entre mes raisons et mes torts.
La mélodie me canalise. J'y fais ma thérapie, économie parallélise. Et la rue m'a fait la bise. C'est rare de s'en sortir entier. Et de la chasse aux billets, c'est les rats de quartier. Au drôle de vécu maquillé, mais qui n'a pas rêvé de briller.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, Louise André, prise de son Clara Galivelle. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.